Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un mag spécial PME. Voilà, donc ça va intéresser, je suppose, beaucoup de gens. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Julien Leclerc. Bonjour.
Bonjour Nicole, bonjour à tous.
Voilà, vous avez 30 ans, marié, une petite fille et un tout petit garçon. Et depuis 2 ans et demi, ou peut-être un peu plus, presque 3 ans, vous avez pris la direction d'une PME, agence de presse, Compresse, ça s'appelle ?
Tout
c'est
à
ça,
fait, c'est ça.
Voilà. Donc, vous avez un bureau à Stafford et à 7 et à Paris. Vous avez quand même 45 personnes. Et cette agence a été créée en 1999 par votre maman. Et vous venez d'écrire un livre-essai, Chronique d'un salaud de patron. Attention, vous n'avez pas l'air très salaud. Édité chez les Cavaliers de l'Orage. Voilà. Alors, il faut dire que cette maison d'édition est spéciale. Elle n'édite que des livres,
engagés.
Engagés. Voilà. C'est ça, hein.
Exactement.
Donc, les romans d'amour, c'est pas pour les Cavaliers de l'Orage. Alors, cette chronique, un essai, c'est pas un roman puisque c'est réel, hein, c'est votre vie.
Tout à fait.
Vous racontez la vie et la solitude. Ça, c'est très important parce qu'un chef d'entreprise, et vraiment seul, hein, voilà, pour prendre des décisions. Alors, vous racontez la vie d'un chef d'entreprise au quotidien. Votre essai, je trouve, est très instructif sur les difficultés d'un patron. Bon, on va en discuter, bien sûr, tout de suite. Alors, votre récit est d'une plume légère, beaucoup d'humour. Moi, j'ai aimé parce
Merci.
Que on rit aussi. Il y a des petites anecdotes très drôles. Et vous expliquez les rapports conflictuels avec l'URSSAF, l'inspection du travail, avec la banque et le problème des DRH. Et la CNCF aussi. Ça m'a
aussi
rappelé des souvenirs, hein. Parce que il faut dire que vous voyagez énormément.
Beaucoup.
Hein, ouais. Voilà. Vous êtes beaucoup forcément pour aller à Paris.
Je vais beaucoup à Paris.
Voilà. Donc, il faut avoir les aléas des grèves de la CNCF, etc.
Je vais me faire des amis, là, je sens.
Oui, moi, je suis de votre avis parce que je prends souvent le train et le nombre de retards, on ne les compte plus, hein, les heures. Se battre pour avoir un petit bout pour pouvoir travailler, avoir les pieds dans les genoux.
On est un peu serré.
Oui, on est un peu serré, voilà. Mais enfin, bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour les auditeurs, en quoi consiste votre agence de presse ?
C'est donc une agence de presse et de communication, donc qui s'appelle Compresse, vous l'avez dit tout à l'heure. Notre métier, c'est de faire des magazines clés en main pour des groupes de presse qui sont donc à Paris. Il faut savoir que 95% des magazines que vous trouvez en kiosque ou en maison de la presse appartiennent à quelques grands groupes de presse, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Donc nous avons tous les métiers de la presse internalisés à l'agence, des journalistes, des graphistes, et d'autres métiers un petit peu moins connus, secrétaire de rédaction, un service photo aussi. Et donc nous fournissons un fichier pré-imprimé à nos clients qui vont ensuite passer tout ça dans une rotative et imprimer leurs magazines et les distribuer. Donc il y a des magazines que vous trouvez assez connus, hein, qui sont en caisse des grandes surfaces par exemple. Il y a un magazine télé qui est pas fait chez nous, tous les autres sont faits à l'agence. Un magazine de cuisine qui s'appelle Vie pratique gourmand par exemple.
Ah oui.
Doctissimo magazine, Secret d'histoire magazine, C'est pas sorcier magazine maintenant, enfin voilà. Pas mal de magazines aussi qui sont en kiosque et en maison de la presse. Voilà pour notre cœur de métier. Tous ces métiers-là, on les propose aussi à des grandes entreprises aujourd'hui. Donc nos deux grosses références, c'est Coca-Cola et Sodexo, des magazines internes ou externes d'entreprises. Et tout ça aussi de façon assez classique maintenant, soit sur le web, soit sur des applications, enfin voilà, sur tout support digital aussi, voilà. Et puis après, on fait d'autres métiers, de l'événementiel, des relations presse, de développement numérique, voilà, des métiers un peu classiques d'agence de com autour de cette spécificité-là, voilà. Et vous l'avez dit, on est donc une petite cinquantaine, 48 salariés
aujourd'hui.
Oui,
c'est beaucoup, hein.
Oui, ça fait pas mal.
C'est beaucoup de responsabilités pour le chef d'entreprise.
Beaucoup de responsabilités, beaucoup de vie aussi, beaucoup d'échanges, beaucoup de plaisir. Et
mais
puis,
oui, c'est la com.
Mais c'est
donc,
vrai, c'est vrai, des responsabilités assez lourdes puisque ça fait autant de salaires à payer chaque fin de mois.
Oui,
voilà.
Donc il faut pouvoir les payer.
Un métier très parisien, si je peux résumer, un métier très parisien
en pleine campagne
puisqu'on est effectivement, le siège social est à Stafford. On a 35 salariés à peu près sur place. Et on a un petit bureau dans le quartier de Saint-Lazare à Paris et un autre à 7 dans l'Hérault.
Oui. Voilà. Et il faut dire que c'est votre maman qui était journaliste à Paris et qui a tout d'un coup décidé de partir en pleine campagne parce qu'elle avait une habitation là-bas, je pense, hein, une grange ou je ne sais pas, et elle a commencé à démarrer sa société dans la grange.
Alors,
c'est ça?
À peu près. Donc elle était directrice de la rédaction, son dernier poste c'était ça, directrice de rédaction d'un magazine assez connu qui s'appelle Téléstar.
Ah oui.
Donc à Paris. On était tous là-bas et en fait j'ai un petit frère qui était très asthmatique, qui a fait beaucoup d'hôpital, et donc les médecins ont un jour dit à ma maman qu'il fallait qu'elle quitte Paris absolument.
Ah, c'était pour cette raison. Ouais.
Voilà, une raison assez personnelle au départ.
D'accord.
Et puis un défi professionnel derrière, elle a d'abord continué à travailler à temps partiel en s'installant donc dans le coin, dans la région, et puis elle a voulu faire le pari d'essayer de créer cette activité là très parisienne ici.
C'était risqué,
donc,
hein.
C'était très risqué, un peu avant-gardiste, parce qu'il n'y avait pas du tout les moyens technologiques.
Entre guillemets, c'était gonflé, même.
Oui, complètement.
Ouais,
c'est pas le mot que j'emploie, je crois.
Je veux dire qu'entre guillemets, oui, tout à fait.
Complètement. Ouais. Et en même temps, il y avait un vrai pari humain, et c'est important, parce que c'est un peu l'ADN de l'entreprise aujourd'hui, d'essayer de créer un petit paradis dans ces boulots à pression là, et donc encore une fois super parisien. Elle a quitté un grand groupe avec les responsabilités mais la rémunération aussi qui allait
avec.
Oui,
c'est ça, elle avait quand même une sécurité de l'emploi.
Exactement. Pour faire le pari risqué de l'entrepreneuriat et voilà, et donc c'est vrai qu'elle en avait clairement ras-le-bol des brainstorming interminables de ces grands groupes de presse qui se terminent jamais, qui se répètent en permanence et qui n'avaient à peu près aucun objectif.
Donc vous en parlez là dans votre livre, et c'est-à-dire il y a un passage, bon je le retrouve pas, enfin drôle, mais quand on le vit c'est pas drôle du tout, c'est-à-dire qu'on vous donne rendez-vous le matin à 8h avant de pouvoir amener vos enfants à l'école, et le soir, et ben quand vous rentrez, ben tout le monde dort,
et le seul objectif, c'est
de parler pour rien.
Et de fixer en fait la date du prochain brainstorming.
Voilà.
Après. Donc elle en a eu marre de ça et elle a créé un espace un peu différent et c'était Paris. Et c'est ce qu'on a toujours essayé de respecter dans cette agence. Voilà.
Oui. Donc là, d'après ce que vous écrivez, c'est une ambiance un peu plus conviviale. Vous avez de très bons rapports. Ça n'empêche pas, bien sûr, les problèmes. Je comprends bien ce que vous dites, d'ailleurs. Mais vous avez de très bons rapports avec tous vos employés.
Complètement.
Hein, parce que c'est vous qui les engagez, déjà.
Oui, j'ai pas tous, puisqu'il y en a qui étaient là, il y a même des gens qui étaient là avant moi.
Qui ont suivi votre maman dans l'aventure, qui sont venus de Paris à Stafford.
Alors pas au départ, elle a créé l'agence avec sa voisine en fait, donc qui était quelqu'un qui vient pas d'ici originellement, mais qui habitait ici. Elle a recruté ensuite des gens qui habitaient dans le coin. Et après, c'est vrai, on a recruté beaucoup d'anciens Parisiens, puisque quand on cherche des gens de notre métier, c'est plus facile de les trouver à Paris.
Oui. Voilà. Dans la région, on n'est peut-être pas formés, non, les journalistes pour ça, ou comment?
Disons que les journalistes de la région sont beaucoup des journalistes de presse quotidienne régionale, la Dépêche, Sud-Ouest, où il y a un petit peu de presse gratuite aussi. Donc, qui ont plein de qualités, mais qui ont ce profil-là. Et parfois, comme nous, on fait beaucoup, beaucoup de presse magazine, il faut des profils plutôt expérimentés en presse magazine. C'est un petit peu plus difficile à trouver dans la région. Voilà. Ouais. Donc quand on peut, on recrute ici, et puis parfois on peut pas, et on a des très jolies rencontres en même temps d'anciens Parisiens, et je dis anciens Parisiens parce que c'est là-bas qu'est concentré notre métier. Mais c'est vrai que pour parler de ça, jusqu'à il y a 3-4 ans, je vous dirais que ça pouvait être un problème dans le recrutement. Aujourd'hui, si je mets une annonce, j'ai 200 ou 300 candidatures en 3 jours.
Oui, les gens veulent partir de Paris.
De plus en plus, et j'ai envie de dire, ce sont des tout profils aujourd'hui. Avant, c'était plus un deuxième choix de vie. J'ai 50 ans, les enfants sont partis. Qu'est-ce que je peux faire? Tiens, j'ai envie de partir. Aujourd'hui, il n'y a plus de généralité possible. C'est à tout type de moment. Voilà, il y a des gens qui en ont marre de cette vie là-bas. Paris devient aussi très difficile à vivre financièrement.
Oui, c'est très cher.
Et donc, ils sont prêts à faire le choix de gagner peut-être un peu moins leur vie parce que les salaires à Staffortais sont moins élevés que les salaires parisiens.
Forcément,
mais vivre beaucoup mieux.
Oui, et puis pour maintenant, avec Internet, quand votre mère a débuté, il y avait des problèmes d'Internet, etc. Mais maintenant, bon, c'est plus un souci. On peut très bien travailler en pleine campagne. C'est plus un souci.
Non, on peut travailler partout. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que se gagner moins, mais vivre mieux, ça fait bondir pas mal de gens quand je le dis. mais je pense que c'est une réalité aussi et que c'est peut-être pas une réalité complètement idiote à l'heure où il y a un petit peu moins d'argent qu'avant.
Voilà. Non, mais je pense que au contraire, si on a une qualité de vie et si on dépense moins, ça revient au même. Hein.
Complètement.
Voilà, les loyers sont moins chers, tout est moins cher, les écoles, les transports, voilà.
Et puis après, vous en parliez tout à l'heure, vous me demandiez les rapports que j'avais avec mes salariés.
Oui.
Je suis persuadé qu'être gentil n'empêche pas la compétence. Voilà.
Non.
Et au contraire, la méchanceté n'est pas synonyme de compétence. Et c'est vrai qu'on l'oublie parfois et, ah là là, attention, c'était trop proche, c'était trop gentil. Oui, il y a une distance à garder, mais on peut être très respectueux et profondément gentil tout en tapant du poing sur la table quand il y a vraiment besoin, mais en fait, il y a rarement besoin.
Oui, parce que là, j'ai beaucoup aimé justement ce rapport que vous avez avec vos employés, parce que vous êtes très gentil, ça c'est bien agréable effectivement, mais quand même, vous savez ce que vous voulez. J'ai relevé là, vous dites être un bon directeur de ressources humaines, c'est écouter, réfléchir et enfin répondre de la façon la plus juste possible en fonction de l'intérêt commun, de la gravité de la demande, de la situation sociale et économique de l'entreprise. Souvent, ça veut dire répondre non.
Exactement.
Voilà. Mais bon, il y a une façon de dire non.
Il y a une façon de dire non.
Il faut savoir écouter
aussi. Ça, c'est la clé. C'est la première chose. C'est ce qu'on appellerait l'écoute active. C'est écouter, mais écouter vraiment et essayer d'aller chercher ce qu'il y a derrière. C'est pas que les mots, c'est les non-dits aussi, entre les phrases, etc. Donc, faut aimer ça. Et il faut avoir peut-être des qualités naturelles pour savoir le faire. Mais c'est ce qui me plaît, moi, dans ce métier. Hein,
vous aimez la pédagogie, la psychologie.
Profondément. Après, oui, je le dis, être juste, c'est pas dire oui à tout le monde.
Non.
Au contraire, on crée beaucoup d'injustices. Et c'est pas ça, être un bon dirigeant. Donc oui, effectivement, on est très souvent amené à dire non, dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt individuel aussi. Et c'est ça, mais être patron, c'est avoir des convictions. Les gens qui travaillent dans une entreprise attendent ça de leur dirigeant. Il faut être convaincu et en même temps, il faut savoir
être ferme
et accepter parfois qu'on fait des erreurs. Donc écouter d'autres avis. Enfin moi, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, c'est Michel Serres qui dit ça. Je le dis dans le livre. L'autorité n'est plus synonyme de compétence.
Tout à fait.
Oui, c'est très vrai.
Mais malheureusement, il y en a pas beaucoup qui qui la pratiquent. Hein.
Je ne sais pas, plus qu'on ne croit, plus qu'on croit.
Oui, peut-être.
Bien sûr,
parce que vous
suis profondément optimiste, moi, vous savez.
Oui.
Et je pense qu'il y a beaucoup de gens bien. Après, il y a des gens
dans
les chefs d'entreprise.
De gens bien,
la problématique, c'est que il faut souvent savoir reconnaître ses limites et ses domaines d'incompétence. Parfois, certains chefs d'entreprise, ça peut être effectivement sur le management. Donc, c'est là qu'ils ont besoin de s'entourer. Mais voilà,
oui,
c'est pas toujours évident d'avoir ce recul-là.
Oui, parce qu'on peut pas tout savoir et tout connaître. Et
pourtant,
pas tout
c'est ce
faire.
Qu'on nous demande, vous savez.
Oui, je sais.
Quand on est chef d'entreprise, tout le monde nous demande ça. Que ça soit l'État, c'est ce que je raconte. Voilà, on nous met le crédit impôt compétitivité en ce moment. Personne vient nous expliquer comment ça marche. Donc, il faut aller rechercher, etc. Même si c'est plutôt bien fait. Quand il y a des nouvelles lois, on nous les présente pas. Quand il y a des nouvelles taxes, on nous explique pas pourquoi. Nos salariés attendent qu'on soit au courant de tout ça. Le droit social, c'est une matière qui évolue en permanence.
Oui, tout à fait.
Comme toutes les thématiques du droit d'ailleurs. On ne maîtrise pas ça, on n'a pas le temps. Il faut en même temps être un bon commercial, il faut être un bon manager, il faut être bon en tout. On ne peut pas. Donc quand moi j'ai une boîte quand même d'une certaine taille, même si je reste une petite entreprise.
Bon, enfin, ça commence à faire, 50 employés.
Ce qui me permet d'avoir de recruter des relais aussi. Mais quand on est patron d'une TPE, c'est très compliqué. On est obligé de tout savoir.
Oui.
Et c'est pas souvent
vous informer
évident.
Sans tout le temps, quoi. Parce
Exactement.
Que ça change effectivement. Il y a des
Sauf
nouvelles
qu'on a
lois.
On n'a pas toujours
ouais.
le temps et l'énergie pour ça. On fait déjà beaucoup de concessions familiales. Quand on est chef d'entreprise, alors on n'a pas toujours le
oui,
temps
parce
de se rajouter de la formation.
Chef d'entreprise, c'est travailler 12 heures par jour. Hein. C'est pas, je sais, parce que j'en ai beaucoup côtoyé dans ma vie professionnelle. Et les vacances, c'est toutes petites vacances, contrairement à ce qu'on pense. Hein. Et on rentre, les enfants dorment, la femme aussi. Voilà. Donc
quand
c'est
elle
pas,
reste, ou quand le mari reste, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise femmes maintenant.
Hein, oui, mais je parlais de votre cas, hein, voilà, bien sûr, il y a beaucoup, et puis heureusement, et c'est très bien d'ailleurs. Mais c'est pas facile de tout concilier, hein, donc.
Non, tout à fait. Alors, on retrouve, on va pas faire que se plaindre, on fait un
non,
métier
non,
passionnant,
pas, bien
et,
sûr,
épanouissant,
sinon
exaltant.
Sinon, vous le feriez
même.
Pas.
Non,
voilà.
Bien sûr.
Non, non.
Mais c'est vrai qu'il y a un revers de la médaille et beaucoup, beaucoup de chefs d'entreprise subissent ça et se plaignent de ça, c'est-à-dire de la grande difficulté à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Voilà.
Ouais, mais c'est très difficile, hein. Complètement. Je sais pas si on peut.
C'est difficile le dimanche quand on a un appel d'un gros client ou un salarié qui a un gros problème de dire non, hein. Donc,
ça, c'est l'inconvénient maintenant des iPhones et tout ça, hein.
C'est
parce que c'est branché en permanence.
Il y a un bouton appuyé pour avoir tous ces mails.
Voilà.
Hein.
Alors on est là, on sait, on regarde. Aïe, c'est un tel qui m'appelle. Normalement, avant, bon, il y en a, on n'avait pas cette possibilité, mais maintenant c'est vrai qu'on est un peu dévoré par tout ça. Alors, vous allez me parler quand même, parce que ça, vous en parlez beaucoup dans votre livre au début, il y a eu la crise.
Ah oui.
Alors ça, quand même, c'est bon à savoir, enfin, c'est bon à en parler de cette fameuse crise qui a fait du couler votre boîte, enfin, vous et tant d'autres, hein. Et voilà. Et
qui en a coulé beaucoup.
Et qui en a coulé beaucoup. Bon, vous avez résisté d'une façon, j'ai trouvé, très pertinente.
Humaine.
Humaine, et puis l'idée de votre maman de faire des crédits. Enfin bon, je veux pas déflorer tout le livre, hein, parce que je veux que.
Non, mais juste dire.
Mais
c'est vrai que
voilà,
cette fameuse
crise là, parlez-nous un petit peu, si vous voulez.
Bah, donc c'était en 2008. Ouais. Effectivement, il y a une toute petite crisette mondiale qui
petite
nous
crisette,
est tombée
ouais.
dessus. Donc à l'été 2008,
ouais.
qui a eu des remous jusqu'à Stafford, jusque partout, effectivement. Donc voilà, l'idée c'était, nous on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires, à peu près 25% de notre chiffre d'affaires, ce qui représente 1 million d'euros à peu près, une babiole, et donc il a fallu très très vite prendre des dispositions pour sauver l'agence, puisqu'il était bien question de ça. Donc on a fait tout un tas de choses que je raconte, et dont une principale qui a été de faire une baisse collective des salaires de quand même 15%. Donc voilà, moi ma première prise de responsabilité dans l'entreprise, j'étais...
Parce que vous veniez juste de rentrer dans l'entreprise.
Non,
hein.
Je suis dans l'entreprise depuis 10 ans, mais j'étais journaliste.
Ah,
et
d'accord.
Donc j'ai fait un petit peu tous les métiers de l'entreprise, mais à ce moment-là j'étais directeur adjoint. Je m'occupais moi de beaucoup du développement de nouveaux métiers, donc faire d'autres choses que de la presse. Et puis à ce moment-là, il a fallu que je gère vraiment cette crise-là en interne, et qu'on trouve des moyens de nous en sortir. Donc à peu près la première chose que j'ai faite socialement, c'était de rentrer dans une pièce et de demander à une trentaine de personnes de baisser leur salaire de 15%.
Ça, c'est dur.
Et j'avais, alors oui, quand on a fait ça, on peut faire beaucoup de choses.
Ouais.
Ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est un petit peu cette histoire-là. J'avais envie de partager cette belle histoire parce que ça s'est très bien passé, parce que
tout le monde vous a suivi.
En moins d'un mois, on a eu l'accord de tout le monde. Et pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui avaient confiance en nous, qui nous croyaient et qui voyaient bien que l'argent qu'on était en train de leur demander, il allait pas partir à Tombouctou ou dans des
piscines.
C'était
aussi pour sauver leurs emplois.
C'était pour sauver leurs emplois. Alors oui, bien sûr, il y avait un côté négatif,
oui,
ils n'avaient pas le choix, mais ça méritait d'être sauvés. Ils étaient reconnus, ils étaient respectés, ils étaient épanouis dans cette entreprise. Donc on avait tous envie humainement que ça marche. Bien sûr, on avait envie de garder nos boulots, mais on avait envie de les garder ici, dans cette entreprise-là. Et puis derrière ça, accessoirement, on l'avait fait avant de leur demander. C'est-à-dire que nous-mêmes, on avait baissé nos salaires déjà.
Oui, vous le dites bien dans votre livre.
Avant,
hein,
et c'est comme ça que ça marche dans la plupart des boîtes. Il faut le dire. Voilà, quand on est patron et qu'on est en train de dire attention, je peux pas t'augmenter, on s'augmente pas non plus. Quand on
demande, pas comme dans les 440.
Non, exactement. Et je comprends que ça exaspère les gens. Mais nous aussi, ça nous exaspère parce que ces mauvais comportements-là. Alors, c'est pas toutes les entreprises du CAC 40, c'est quelques patrons qui.
Mais on ne parle que de.
Il y a sans doute des petits patrons qui sont pas des gens bien non plus.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on ne parle du patronat, c'est pas un mot qui me plaît énormément, et de l'entrepreneuriat que quand il y a des mauvais exemples comme ça. Elles sont où les belles histoires? Ils sont où les jolis témoignages? Il y en a plein, il y en a beaucoup.
Oui.
Être patron aujourd'hui, c'est pas gagner 100 000 euros par mois et hurler quand on veut nous prendre 75% de ça ou au-dessus du million.
Oui.
Non, c'est au contraire, c'est gagner beaucoup moins d'argent que ça, c'est gagner parfois à peine plus, voire moins que ses salariés. C'est mon cas. Ou alors, c'est surtout essayer de boucler les fins de mois pour payer tous les salaires. Hein, voilà. Et donc cette histoire, elle est très jolie. Et grâce à ça, on a pu sauver l'agence, effectivement, avec d'autres stratagèmes. Et notamment en prenant des crédits conso perso.
Parce qu'on parlera après du comportement des banques quand même, c'est
exactement,
important. Hein.
Donc voilà, à ces moments-là, il nous fallait de l'argent et on a appelé le petit bonhomme vert et ses copains pour leur demander de nous prêter de l'argent. On pouvait pas le faire au nom de l'entreprise, donc chacun l'a fait personnellement. Moi, j'ai raconté que je partais en voyage de noces pour emprunter 20 000 euros. que j'ai tout de suite mis dans l'entreprise pour la sauver.
C'était risqué en plus, hein, parce que si ça marchait pas, c'était perdu.
Si ça marchait
hein.
pas, j'étais endetté à 95% de mon salaire.
Vous vous rendez compte, ouais.
Avec, avec mon crédit maison, mon crédit voiture et ce crédit conso en plus. Mais ça a marché, j'ai fini de le rembourser il y a quelques mois. Et,
ah, ouf.
On est toujours là et on est très content d'avoir fait ça. Mais c'était
ouais.
risqué, ouais.
Oui, oui, tout à fait. Ben, écoutez, on va faire une pause musicale et vous avez choisi le sapin de Charlie et vous allez nous dire pourquoi vous l'avez choisi.
Alors, c'est très doux. Ouais. Ça m'accompagnait parfaitement pour écrire mon livre, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le train, lors de mes nombreux voyages à Paris. Voilà.
Voilà, ben on écoute.
Je n'ai plus peur de souffrir, de revoir. Oh, adieu, c'est pire. Ce n'est plus l'heure de choisir mon amour. Le devenir, bailler sans dormir, c'est pire. C'est la somme des souvenirs, mon amour, mon amour. Je t'en prie, tu peux bien fermer la porte, m'applaudir sans escorte. Tu peux partir tranquille, mon amour, mon amour. Je supportais tous les moments à venir, les meilleurs comme les pires. Je résiste pour ne pas fuir, mon amour, mon amour. Je t'en prie, te dire comment je m'appelle. Comme hier, comme l'avant-veille, juste un baiser pour Noël. Un cadeau pour les étrennes, te dire quand est-ce qu'on se rappelle. Moi j'espère peut-être demain, car demain c'est Noël. Et moi j'ai rien sous mon sapin. Je devine les lieux, les places où tu files. Toutes les pages que tu supprimes, mon amour, mon amour. M'assassiner, se méprendre ou toucher le fond. Pour un oui, pour un non. Tu peux partir tranquille, mon amour, mon amour. En espion, on peut même tirer au sort. Si c'est pile, c'est moi qui ai tort. Si c'est face, c'est toi qui sors. Taper un, taper deux, taper encore. Te dire comment je m'appelle. Comme hier, comme l'avant-veille, juste un baiser pour Noël. Un cadeau pour les étrennes, te dire quand est-ce qu'on se rappelle. Moi j'espère peut-être demain, car demain c'est Noël. Et moi j'ai rien sous mon sapin. Demain c'est Noël. As-tu reçu ma dernière lettre?
Julien Leclerc, là j'aimerais que vous me parliez de quand vous étiez en difficulté, que vous aviez besoin du soutien de la banque. Eh bien voilà, la banque, il n'y avait plus de banque. Il n'y avait plus rien.
La banque, quand on n'a pas besoin, c'est très bien. Non, ouais, on va peut-être pas complètement généraliser.
Non, mais enfin.
Il y a sûrement des banques bien, et je crois plus, encore plus que ça.
Ouais.
Il y a sans doute encore de la place pour de l'humain, donc il y a des gens bien dans des banques.
Oui, ben, voilà. C'est sûr. Mais
nous,
là,
on a eu une expérience absolument horrible, sincèrement, avec notre établissement de bancaire de l'époque, qui tout simplement, pour faire assez court, est venu nous voir le 1er décembre 2008 pour venir un petit peu écouter ce qu'on avait à leur raconter sur nos difficultés et sur nos les solutions qu'on proposait pour s'en sortir. Donc voilà, ils sont venus à la fin de l'entretien, ils nous assuraient de leur entier soutien. Voilà, ils étaient très compatissants, tout s'était bien passé. Le lendemain, donc le 2 décembre, nous recevions un recommandé de dénonciation. Alors c'est un grand mot pour expliquer clairement que toutes les libertés qu'on avait avant cela étaient supprimées.
Donc plus de découvert, c'est
plus
ça,
de découvert,
ça veut dire ça
très concrètement, plus de découvert par exemple. Et la banque nous enjoignait, nous donnait 2 mois pour régler la situation, sinon on y fermait nos comptes. Donc
c'était
donc,
voilà, à l'époque de Kerviel et tout ça, il faut dire.
Faut reconnaître ouais. ce qu'il faut dire et resituer un petit peu le contexte, c'est que cette crise, elle est effectivement très loin de notre quotidien et on y est pour rien. Donc voilà, parce que Kerviel et ses petits copains et plein d'autres gens ont perdu des milliards en faisant de mauvais placements. Nous, on se retrouve hyper impactés dans notre quotidien de petite boîte et très en danger à cause de ça. Derrière, la banque effectivement a été s'est très mal comportée puisque le recommandé en question avait été envoyé donc le 30 novembre, c'est-à-dire la veille de leur venue. C'est-à-dire que quand ils sont venus nous assurer de leur soutien, ils savaient très bien que ça n'était pas
vrai. Bravo.
Donc voilà, comment vous voulez-vous prévenir, prévoir, rassurer vos salariés, mettre des choses en place.
Non.
Voilà, heureusement on s'en est sorti, une des étapes de notre plan de sauvetage, si j'ose employer ce mot-là, était de changer d'établissement bancaire, ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on est mieux d'accompagner, comme quoi ça arrive, mais c'est vrai que on a besoin des banques.
Je pense que vous avez changé de banque.
On a changé de banque et on est avec des gens assez formidables. Voilà, on va me dire oui, il dit du bien de sa banque pour pas avoir de problème. Non, je pense sincèrement, peut-être que d'autres boîtes auront de mauvaises expériences avec eux, nous on en a des très bonnes. Mais voilà, c'est ce manque de soutien humain à l'économie, a fait perdre des emplois. Voilà. Les PME, pendant cette crise, se sont attachés à sauvegarder les emplois. Peut-être que les très grosses boîtes ont coupé beaucoup plus vite que nous. Nous, patrons de PME, on a essayé de sauver les emplois et de licencier le moins possible.
Vous avez pu garder tout le monde?
On n'a pas pu garder tout le monde. Voilà, on a coupé. Oui. On avait un bureau en banlieue parisienne à Boulogne-Billancourt.
Oui, vous l'avez supprimé.
Fermé. Il y a eu quand même 14 personnes licenciées, soit fin de contrat, fin de CDD ou des fins de CDI aussi. Donc, non, on n'a pas pu sauvegarder tous les emplois. Mais en revanche, on a sauvé une trentaine d'emplois.
C'est déjà
bien. Et on en a recréé
20 de plus.
20 de plus à peu près. Donc on a bien fait. Comme quoi, la banque qui a osé nous suivre avait raison, je crois.
Oui, oui. Voilà. Oui, et puis c'est sûr qu'il faut soutenir. C'est leur rôle aussi quand même de soutenir les entreprises, les PME.
Il me semble. C'est un peu facile de les soutenir quand tout va bien.
Oui, c'est sûr.
On a besoin d'une banque quand? On a besoin d'une banque à deux moments. Soit quand on est positivement en train d'investir ou de créer quelque chose, soit quand on traverse une difficulté. Bien sûr, les banques vont pas suivre n'importe comment ad vitam aeternam si on va très mal. Mais si on a un moment passager où on a des grosses difficultés, mais où on est capable de leur présenter derrière une vraie restructuration, qu'on est capable de leur présenter des choses plus positives, il faut qu'ils suivent. Voilà. Et c'est vrai que, alors peut-être qu'ils ont eu moins de latitude, ils ont sûrement été un petit peu échaudés, mais à ce moment-là, ils se sont très mal comportés.
Oui.
Et tous les chefs d'entreprise s'en sont plaints.
Oui, oui, non, mais ça, c'est connu quand même.
Et concrètement, on a perdu des emplois. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot à cause de ça.
Ben oui, c'est sûr. Ouais. Encore que vous, bon, dans votre malheur, vous en êtes pas trop mal tiré puisque vous avez rebondi et vous êtes toujours là.
Mais
au prix d'énormes sacrifices, pour tout le monde.
Au prix de gros sacrifices, grâce à une gestion très humaine qui nous a permis de demander des choses assez fortes à nos salariés. Et puis, au prix de beaucoup de travail. Mais oui, on est content. Vous savez, c'est Nietzsche qui dit, ce qui ne tue pas, nous rend plus fort, c'est vrai. C'est pas toujours vrai, mais dans l'entreprise, c'est vrai.
Mais enfin, il y a des fois où on s'en passerait aussi.
Complètement, je suis d'accord.
Alors bon, là, disons, vous allez nous parler de toutes les tracasseries administratives, URSSAF, inspection du travail, en plus du reste. Le conflit avec la banque, c'est fait. Vous avez beaucoup à faire à l'URSSAF quand même. Beaucoup de contrôle.
Ce que j'ai voulu raconter un petit peu à travers toutes ces anecdotes, c'est que ces mots-là, URSSAF, inspection du travail, contrôle fiscal, médecine du travail, etc., ce sont des mots qui font beaucoup plus partie de notre vocabulaire et de notre quotidien que les mots stock option, parachute doré, etc.
Du tout le cas, là.
Donc voilà, notre quotidien, il est là. Alors, je raconte un petit peu des anecdotes. L'URSSAF, c'est un peu la trouille ou l'enfer pour les chefs d'entreprise. C'est vrai que ça énerve peut-être, mais aujourd'hui, les charges sociales sont un vrai frein à l'embauche. Il en faut, mais elles sont extrêmement élevées en France. Et c'est vrai que le coût du travail est un vrai frein à l'embauche en France. Donc c'est quelque chose autour duquel peut-être il faut réfléchir.
Oui, on aimerait, mais ça fait longtemps qu'on demande
aux dirigeants de réfléchir.
C'est
souvent un discours qui est taxé d'être politisé, ça n'est pas le cas.
Voilà,
c'est juste du bon sens. En pleine crise de l'emploi, si la priorité c'est de créer de l'emploi, il y a deux choses à faire, soit faire en sorte que l'emploi coûte un peu moins cher, soit assouplir un petit peu les conditions d'embauche, puisqu'aujourd'hui, créer un emploi, c'est quelque chose de qui demande une visibilité à long terme que nous n'avons plus. Les entreprises, et les PME en particulier, n'ont plus de visibilité sur un an, deux ans. Voilà, on a une visibilité sur trois à six mois, souvent au maximum. Comment créer de l'emploi dans ces conditions ? Voilà les deux choses sur lesquelles il faut travailler. Tout le reste, ça sert pas à grand chose. Voilà.
Non, ben oui, ça serait une bonne chose parce qu'avec le chômage qui continue d'augmenter, ça permettrait aux gens de travailler.
Il faut juste fixer ses priorités. Mais si la priorité c'est de créer de l'emploi, effectivement.
Alors là, vous parlez de quelque chose que j'ignorais complètement. Vous avez pris un facteur pour contrôler vos amendes, c'était à l'URSSAF ou à l'inspection du travail, qu'est-ce que c'est exactement?
Le facteur, c'est...
Ah oui, qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi, j'ai pas trop compris là.
Le facteur, c'est juste une entreprise qui vous paye avant vos clients. C'est-à-dire, vous lui transmettez vos factures clients.
Ah, d'accord.
Et vous êtes payé très très vite. En 24, 48 heures, quand vous êtes dans des périodes où vous avez des gros problèmes de trésorerie. Ça vous permet d'être payé en 48 heures dès que vous émettez une facture.
Oui.
Et plus tard, quand le paiement du client arrive effectivement, le facteur se rembourse et garde évidemment un petit pourcentage pour lui.
D'accord. Voilà. Mais ça permet d'avoir un peu plus de
trésorerie, de souplesse de trésorerie.
Ouais, de trésorerie. Voilà. Oui, parce que là, effectivement, vous dites que vous avez eu beaucoup d'amendes de l'URSSAF pour des choses.
On a eu, ce que je racontais, c'était le redressement URSSAF.
Alors,
effectivement, on a, en fait, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, on peut pas tout connaître. Donc, régulièrement, on est contrôlé et on pense, comme on est de bonne foi et de bonne volonté et très honnête, qu'on n'aura pas de problème. C'est une bêtise. On a été redressé URSSAF effectivement pour des choses un petit peu idiotes. Je cite un exemple qui est que mon amie gérante n'a pas le droit des tickets restaurants. Alors, je fais un petit aparté, il faudra qu'on m'explique pourquoi la gérante n'a pas le droit des tickets restaurants.
On ne voit pas
peut-être
pourquoi.
Peut-être pas le droit de manger, je ne sais pas.
Oui, voilà, il faut qu'elle mange moins.
Sans doute. Elle sera contente de l'entendre. Mais voilà, c'est surtout, je me suis dit, mais pourquoi personne ne nous l'a jamais dit ? Ça fait, ça fait des années qu'elle a le droit à des tickets restaurants. Pourquoi on ne nous a pas dit que c'était pas le cas. Et ce redressement, on allait le payer. Le jour où mon expert comptable m'a dit, attendez, on va essayer de le contester. Et effectivement, on a payé 5 ou 6 fois moins juste en le contestant. Parce qu'en plus, l'URSSAF fait des erreurs. Mais ce que je comprends,
ils n'ont peut-être pas
les moyens de faire leur travail correctement non plus.
Oui. Bon, donc il faut tout contrôler, quoi.
Oui.
Alors c'est une perte de temps pour faire marcher l'entreprise aussi.
C'est une perte de temps. Ce qui est un peu dommage, c'est que ces organismes publics, sont eux-mêmes contrôlés souvent en fait par des entreprises privées. Ce sont des entreprises privées qui se sont fait spécialistes de la contestation des redressements URSSAF par exemple, et qui font leur argent là-dessus. C'est clairement de l'argent perdu pour l'État.
Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Bon, mais écoutez, on va faire une autre pause musicale. Alors là, on écoute Bob Marley. Je me souviens plus du titre, mais enfin bon.
Redemption c'est pas Song.
Voilà.
On écoute. La rédemption.
La rédemption. Voilà. Ça y est, c'est bon pour vous, la rédemption.
La rédemption des patrons et de l'entreprise.
Voilà. Oui. Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom?
'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom.
Alors, Julien, je crois que vous avez un blog qui est passionnant, donc vous allez nous en parler avant que l'émission ne se termine.
Complètement, donc c'est www.salaudepatron.fr, donc ouais. c'est le blog que je tiens à jour, sur lequel je réagis un petit peu à l'actualité, puisque l'actualité sur ce type de thématique est extrêmement chargée. Voilà, donc le Nouvel Obs, par exemple, il y a 15 jours, faisait sa une sur les patrons psychopathes, donc voilà, j'avais envie de réagir à ça.
Le blog
est un vrai espace de liberté qui me permet de faire ça. Voilà, il y a pas mal de photos aussi un petit peu marrantes, voilà, et puis le livre est en vente aussi sur le blog, pareil.
Voilà. Et dans les bonnes librairies à Genève et bien sûr à Paris et partout dans toute la France.
Partout en France, ouais. La formule consacrée dans toutes les bonnes librairies, effectivement, voilà. Fnac et les magasins Cultura, etc., etc. Et
voilà. Alors je rappelle le titre Chronique d'un salaud de patron de Julien Leclerc, édition Les Cavaliers de l'Orage. Et bon, ben notre émission se termine. Je suis ravie de vous avoir rencontré. C'était passionnant, mais nous n'avons pas tout dit, on n'a pas tout défloré. Et j'invite les auditeurs qui s'intéressent aux PME, qui veulent en savoir un peu plus, à acheter votre livre. Voilà. J'invite les auditeurs à aller sur notre page Facebook où vous verrez les photos de tous nos invités. À la semaine prochaine.
Merci
au revoir.
Beaucoup.